Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, nous n'avons pas vu Ocean's 8 ni Hérédité, mais on se rattrapera, mais on a vu d'autres films, Manu.
Notamment Jurassic World, Fallen Kingdom et Sicilian Ghost Story, un film italien.
Et puis moi, je vous parlerai de Trois jours à Quiberon de Émile Attef, un film bien qui parle de Romy Schneider, un film consacré à Romy Schneider. Ce sera l'occasion de jouer à un blind test spécial Romy Schneider avec 5 extraits de films de sa filmographie. Et puis en toute fin d'émission, eh bien, on parlera des ressorties, celle de Mon voisin Totoro et puis de 2001, l'Odyssée de l'espace, l'occasion d'écouter un montage spécial Cinérama.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Bienvenue à Jurassic World.
Et oui, on prend les mêmes et on recommence. Alors, le démarrage est laborieux, hein, il faut bien en convenir. Hein. L'impression d'assister, on va dire, à un décalque ou un pot-pourri des précédents opus suscite la désagréable impression qu'une nouvelle fois, le cinéma hollywoodien n'en finit plus de s'autodétruire, pris dans l'engrenage de la répétition à l'infini, alors des mêmes motifs visuels et aussi des thématiques, aussi antidiluviennes que les Triceratops ou autres Diplodocus que l'on voit dans le film. Alors, la formule ne produit plus d'excitation, hein, tout paraît mécanique, comme verrouillé par un cahier des charges exsangu. Alors, suite logique du précédent, Jurassic World 2 nous embarque sur Isla Nublar, où vivent les dinosaures, ayant détruit le parc à thème de luxe. L'île a été abandonnée par les humains, laissant les grosses bébêtes survivre dans une jungle menacée par un volcan en éruption. Alors, on retrouve Claire Deering, qui n'a plus rien à voir d'ailleurs avec la jeune femme dynamique et ambitieuse du film précédent, puisqu'elle préside une gentille association pour la protection des animaux. Alors, contactée par Benjamin Lockwood, qui s'occupe des affaires du milliardaire John Hammond, elle s'embarque sur l'île, ayant pour mission de sauver 11 espèces de dinosaures. Elle s'entoure pour cette expédition périlleuse d'Owen Grady, le dresseur de Vélociraptor, avec qui elle va entamer une discussion hautement philosophique à l'œuvre dans toute la série des Jurassic Park.
Tu te rappelles la toute première fois que tu as vu un dinosaure ? La première fois, c'est comme un miracle. Tu lis des livres sur eux, tu vois des squelettes dans les musées, mais au fond, tu n'y crois pas vraiment. C'est comme une légende. Et un jour, tu vois ça. Ton premier dinosaure vivant.
Tu n'y es pour rien.
Bien sûr que si.
Non. Ce coup-là, c'est moi. Je leur ai ouvert la voie.
C'est pas toi, c'est moi.
Enfin, ben voilà. Oui, c'est un peu ça. Alors, rajoutons à ce couple pas très sexy, finalement, hein, un spécialiste en informatique, hein, il en faut toujours un, et puis une paléo-vétérinaire assez sexy, pour le coup, hein, donc un couple de geeks parfait. Alors, ce gentil petit monde est aussi accompagné par un groupe de militaires, obéissant alors à des ordres de toute autre nature que ceux de sauver les dinosaures. Alors, rien de neuf se profile à l'horizon, durant une première demi-heure sympathique mais poussive. Les militaires sont des brutes épaisses, le méchant de l'histoire incarne une sorte de caricature de l'arriviste avide de profit. Jeff Goldblum reprend son rôle lors d'une courte apparition pour annoncer une catastrophe plausible et surtout venir récupérer un chèque. Et enfin, nos valeureux héros se débattent comme ils peuvent pour protéger les dinosaures, apparaissant alors davantage comme des victimes, même si l'issue s'avère plus complexe et surtout pessimiste quant au devenir de l'humanité.
Ils m'ont menti !
L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé ?
Ils vont les vendre.
Pablo, ils ont d'autres projets pour elle.
C'est quoi cette chose ?
Ils l'ont créée.
C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé.
On a libéré la puissance génétique.
On ne peut plus faire marche arrière.
Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après.
réalisateur du précédent, le quatrième en fait, Colin Trevorrow se retrouve là scénariste, laissant là sa place à Juan Antonio Bayona, le réalisateur espagnol, déjà pressenti pour le premier, mais faute d'un calendrier chargé, il dut refuser le poste. Alors bonne nouvelle, passé la longue exposition, l'espagnol change de cap, envoie tout le petit beau monde dans la vaste demeure de John Hammond et transforme un simple film d'aventure à l'ancienne en un pur trip gothique, utilisant à merveille la topographie des lieux. Alors long couloir anxiogène, des escaliers en colimaçon, sous-sol lugubre, choses trappes diverses, tout l'attirail du film de fantômes est alors convié, ce que la présence d'une petite fille mystérieuse ne fait qu'accentuer, tout comme celle de Géraldine Chaplin, une présence spectrale à elle seule de tout un pan du cinéma espagnol, à commencer par Cris à cuervos de Carlos Saura. Alors les impressionnants effets spéciaux prennent alors une dimension onirique et effrayante, glissement d'un genre, le film de monstre, vers un autre, celui plus secret du film d'épouvante à l'ancienne tourné en huis clos. La sensibilité de l'auteur de L'Orphelinat éclate le cadre étroit du simple blockbuster. Il insuffle une émotion particulière lorsqu'il filme la petite fille de Backlund déambulant dans le manoir, essayant de percer à jour un mystère, comme si elle était au fond la clé d'un récit plus profond. Alors elle cherche une solution à un problème dont elle n'a pas pleinement conscience, mais son instinct la pousse à agir. Alors Jurassic World 2 n'existe au fond que pour ce personnage, qui apporte toute la saveur à un spectacle stimulant, par ailleurs excellemment mis en scène par un des cinéastes les plus doués de sa génération. Dès qu'il investit son univers, Juan Antonio Bayona accomplit des merveilles en termes de composition des plans, rendant lisible la moindre scène d'action grâce à un montage précis mettant en valeur d'ingénieux mouvements de caméra. Alors, la caméra, souvent très très mobile, permet d'explorer au maximum un décor impressionnant, mais toujours bien utilisé. Alors, pour finir, Jurassic World 2 contredit en partie le triste constat des auteurs européens aux commandes de grosses machineries hollywoodiennes. Juan Antonio Bayona a su garder son âme, qu'il n'a pas troquée contre quelques dollars de plus. Alors presque un miracle, une fois passé bien sûr les 30-45 premières minutes, que je répète, qui sont assez laborieuses.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'était très très mal parti.
C'était mal parti, mais parce que le film est très mal parti. Enfin, on a vraiment l'impression de voir vraiment la même chose que les précédents. Mm. Les mêmes décors, on est toujours sur l'île. Il se passe, c'est assez impressionnant, c'est bien fait. Il y a la lave qui coule tous les dinosaures. Bon, la seule chose qui change par rapport aux précédents, c'est qu'on a d'emblée de l'empathie pour eux. Mm. Mais sinon, on a vraiment l'impression d'un
présentation, un conditionnement, une présentation familière, en fait, de l'univers pour ensuite basculer dans autre chose. Voilà, tu l'as très bien présenté, Manu. Donc, les dinosaures, c'est à voir sur les écrans. Et puis, c'est pas une dinosaure, mais en tout cas, c'est un grand mythe. C'est Romy Schneider dont il va être question maintenant.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Faut-il aimer Romy Schneider pour aimer 3 jours à Quiberon, retraçant la vie de la star franco-allemande pendant 3 jours, alors devinez où ? Oui, dans la presqu'île du Morbihan, évidemment. Un biopic qui, vous l'aurez compris, est comprimé dans un espace, Quiberon, et qui n'est pas la plus déplaisante des îles, et dans un temps, 3 journées et 2 nuits. C'est le parti pris de la réalisatrice Émilie Attef, racontée en un court laps de temps, une actrice qui a compté pour de nombreux spectateurs, d'autant plus qu'elle a disparu trop tôt. La réalisatrice ne choisit pas Quiberon par hasard, ni pour la beauté de la côte battue par les vents, ni pour son centre de thalasso. Au moment où se passe le film, Romy Schneider venait de divorcer de Daniel Biasini et David, son fils, ne voulait pas vivre avec elle et elle avait en plus une ardoise au fisc. Bon, c'était un peu compliqué. Et celle qui avait dépassé la quarantaine s'était retirée sur la presqu'île pour faire une cure de repos, manger peu, manger sainement et puis dormir. Pendant ce séjour, l'actrice décide d'accueillir un journaliste du Stern, donc le quotidien allemand, et un photographe qu'elle admire par-dessus tout, pour une interview où elle va s'expliquer auprès des Allemands. Parce que pour eux, Romy Schneider est avant tout celle qui a abandonné Sissi et qui est partie en France au bras d'un acteur. Impardonnable. Le film donne à voir l'interview rude, menée par un journaliste posant des questions, alors sans concession, en n'oubliant pas de juger ou de manipuler pour mieux arriver à ses fins. Le film donne aussi à voir comment Romy Schneider se défend, comment elle se livre et comment également elle s'effondre. Mais si la réalisatrice nous montre tout cela, elle l'invente. Ou disons-le autrement, il s'agit d'un biopic qui est fictionné. Oui, Romy Schneider est bien allée à Quiberon, elle y a fait une interview, mais la réalisatrice a tout recomposé avec une matière intéressante. Tout d'abord, pour retracer ces moments, elle a utilisé les plus de 600 photos de son ami photographe Robert Lebec, qui était présent bien sûr à Quiberon en même temps que Romy Schneider, un artiste au déclenchement compulsif qui a eu l'avantage, vu l'intimité qu'il partageait avec l'actrice, de pouvoir donner une vision plus large de Romy Schneider. Alors pour nous plonger dans cette période, nous sommes en 81, la réalisatrice a décidé d'utiliser le noir et blanc, une bonne matière pour tisser les contours et les nuances de l'actrice dont on sent par moments la détresse immense, c'est autrefois la joie, mais pour résumer, la fragilité et la versatilité subtilité. Pour incarner Romy Schneider, l'actrice allemande Marie Baumer, qui lui donne corps avec une certaine aisance. La comédienne avait déjà eu de nombreuses propositions pour incarner Romy Schneider, à qui on peut trouver finalement une certaine ressemblance. Elle s'est décidée à tourner ce film, emballée par le projet. Un très bon travail de composition, et c'est à ce moment-là que d'ailleurs, plus on apprécie Romy Schneider, plus on est touché, me semble-t-il, par ce film, tant la ressemblance semble frappante. Mais pour ceux qui n'apprécient pas plus que ça l'actrice, la réalisatrice raconte aussi l'histoire d'une star qui n'a fait que côtoyer les plateaux toute sa vie. Depuis l'âge de 14 ans, Romy Schneider a en effet enchaîné les films. Ce qu'elle raconte dans « Trois jours à Quiberon », qui ne doit pas être loin de la vérité, finalement, c'est son besoin de tourner, comme si elle n'avait su faire que ça, mais également son besoin de souffler. Alors, une scène étonnante nous est donnée à voir, celle d'une nuit presque blanche dans un bar breton, avec un poète planqué sous la trogne de Denis Lavant, acteur vivace et singulier, quand Romy Schneider inspire classe et séduction. Un beau mélange des genres. Alors, quelques éléments biographiques sont sûrement exacts. La réalisatrice a questionné ceux qui avaient vécu ces trois jours, a consulté l'interview du Stern, et donc les photos de ces moments. Le film ne repose pas entièrement sur Romy Schneider. Certaines séquences sont amorcées en fait par son amie d'enfance venue la rejoindre à Quiberon. Et celle-ci aimerait bien la protéger finalement contre les autres et contre elle-même. La fille de Romy Schneider regrette que sa mère soit montrée comme une femme dépressive, dépendante à l'alcool. Parce que c'est vrai qu'elle boit beaucoup quand même dans ce film. Et elle fume énormément, peut-être 4-5 paquets durant le long métrage. Mais heureusement, la réalisatrice, toujours bienveillante, nous montre autre chose. Dans Trois jours à Quiberon, Emilia Teff sait aussi s'extirper de son récit pour insister sur la fragilité d'une femme souffrant de ne pas être en paix avec elle-même. Trois jours à Quiberon de Emilia Teff, finalement, c'est un film qui aurait tout d'un film d'arrêt d'essai, mais qui va quand même sortir quasiment sur une centaine d'écrans. Alors c'est dû forcément au personnage qui est incarné à l'intérieur de ce film. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Romy Schneider. Je ne sais pas si tu es très au point là-dessus, Manu.
Pas forcément, mais je connais quand même quelques films.
Chers auditeurs, préparez-vous. Et ça commence, mais facile.
Voulez-vous m'aider à supporter le fardeau du pouvoir ? Et si Hélène n'existait pas?
Mais elle existe, et je l'aime. Et pour rien au monde, je ne voudrais lui faire du chagrin. Elle vous aime. Tout à l'heure, elle me l'a dit.
Alors, il semblerait que ce soit le premier Sissi,
oui,
Manu.
C'est le premier Sissi Impératrice.
Parce que j'avoue que je n'ai pas fait attention.
Le réalisateur dont je n'arrive jamais à prononcer le nom.
Et je ne l'ai pas noté. Donc, comme ça.
Réalisateur suisse, autrichien.
J'imagine, oui. Oui, c'est un peu autrichien, allemand en tout cas. Ils étaient très fans de cette série Sissi. On passe cette fois-ci à un film français, parce que c'est quand même l'essentiel de la filmographie de Romy Schneider.
Avant que tu partes, j'attendais cet enfant. Maintenant, je ne l'attends plus. Si je fais ça sans t'en parler, c'est parce que je ne savais pas comment te dire que toi aussi je t'attendais. Et que je ne t'attends plus. Demain, quand tu reviendras, je n'irai pas chez toi. Et je te demande de ne pas venir chez moi. Je te demande de ne pas m'appeler.
Alors, c'est pas forcément facile. En tout cas, c'est un réalisateur avec qui elle a tourné beaucoup, réalisateur français. Claude Sautet,
oui. J'ai pensé à César et Rosalie, ou Les choses de la vie.
Non.
Non plus.
Non. Ah. Là, elle parle à Claude Brasseur. Et il y a aussi Bruno Kremer qui joue dedans. C'est une histoire simple.
Ah oui,
film, pas vu. Film de 78. Ouais. Allez, là, c'est un facile.
La vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
Tu ne vas pas me dire que là, tu ne penses pas à lui.
Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Puis oui, je pense à lui. Je ne sais pas s'il est beau, s'il est... Je m'en fous. Toi, je ne sais pas pourquoi je t'aime.
Oui, mais tu m'aimes.
Oui.
Alors,
c'était Yves Montand, oui. Mais même, c'était pas si simple quand on n'a pas vu le film depuis longtemps.
C'est faux, c'est
vrai. César et Rosalie.
Oui. Voilà. Film de Claude Sautet, encore une fois, film de 1972. Là, c'est encore un film français.
Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer, c'est tout. Alors ne faites pas de photos.
C'est celui-là.
S'il vous plaît. Coupez.
Ne faites pas de photos.
Au revoir sur le plateau.
Mais vous, là.
Qu'est-ce que vous foutez là?
Alors, moi, je n'ai jamais vu ce film. Mais...
Ah, c'est grandiose. Hein. C'est l'importance c'est d'aimer cette séquence. Et je pense que c'est certainement le plus grand rôle de Romy Schneider. Mmh. Le plus difficile aussi.
Ouais. Mais je connaissais cette séquence qui est avec...
C'est l'ouverture du film, en fait.
Ah, d'accord.
C'est quasiment l'ouverture. Mmh. Hein. Et avec une distribution assez curieuse, hein, puisqu'on retrouve Klaus Kinski et aussi un acteur de cinéma bis italien qui a des premiers rôles, qui s'appelle Fabio Testi, qui a joué chez Fulci, chez Joe D'Amato, chez plein de réalisateurs... Mmh. Un peu bis, en fait. Mais il paraît qu'il ne comprenait rien, d'ailleurs, au tournage.
Dis ta phrase. Bon, là, c'était un peu, d'ailleurs, on entendait une réalisatrice complètement hystérique,
oui,
vociférante.
Parce que bah oui, elle jouait dans des films d'horreur, et puis là, elle se retrouve... là, elle se retrouve dans un film un peu de série B, et elle est un peu en fin de carrière, voilà, on dirait.
L'important, c'est d'aimer d'André Zulawski, donc film sorti en 75, et on va achever ce blind test spécial Romy Schneider avec ce film-là.
Ne fais pas attention à moi, c'est pas grave. Mais je m'y attendais. Ces derniers temps, tu cherchais quelque chose. La première qui est passée, tu l'as prise. En plus, c'est la fille d'Harry, ça t'excite.
Tu dis n'importe quoi, Marianne.
Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Ce que tu veux faire avec cette fille, je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que... Il me semble que tu fais une bêtise.
Alors, il y avait des indices tout à l'heure, c'était Yves Montand qui donnait la réplique. Cette fois-ci, c'est Alain Delon.
Oui, pour la piscine hein, de Jacques Deray, film de 68.
69,
sorti en 69, mais le film est de 69.
Oui,
voilà.
En 68, bon, pareil, préparé en 67, oui. Si on veut par là.
Même peut-être avant. Hein.
On ne s'arrête plus. Voilà, blind test achevé pour Romy Schneider. Il était question du film « Trois jours à Quiberon » de Émilie Attef dans les salles depuis le 13 juin.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Sicilian Ghost Story s'empare d'un fait réel ignoble, le kidnapping du fils de Santino Di Matteo, mafieux impliqué dans l'assassinat du juge Falcone, qui a accepté de coopérer avec la police. Son fils de 11 ans fut séquestré et torturé par la Cosa Nostra. Alors pour étoffer cette histoire sordide, mais assez ténue en soi, le duo Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, découvert avec Salvo à la Semaine de la Critique en 2013, imagine un autre récit, plus romanesque, flirtant avec le cinéma fantastique et onirique dans la lignée des œuvres de Guillermo del Toro et plus globalement des films de fantômes espagnols. Alors celui de Luna, adolescente, choquée par la disparition de Giuseppe et aussi par l'indifférence quasi générale d'un environnement familial et social tétanisé par la peur de parler. Alors tout le monde est au courant, mais personne ne l'ouvre. Les représailles possibles figent la population locale. Le prologue, très charnel, constitue d'ailleurs la part la plus réussie du film. L'idylle entre Luna et Giuseppe, captée en pleine forêt, enchante autant qu'elle envoûte. La sensualité d'une mise en scène, investissant des lieux comme peu de films parviennent à le faire, fascine. La matière, organique et minérale, est au cœur de la dynamique visuelle. Le vent, les arbres, l'herbe, l'eau, tout ça, les réalisateurs le captent super bien. Cet aspect purement sensitif constitue la part la plus stimulante de cette œuvre ambitieuse. Hélas, cette inspiration va tourner court assez rapidement. Le paradoxe intéressant du personnage de Luna résulte du fait que, d'un côté, elle regarde une vérité en face, n'accepte pas la disparition de cet amour naissant, se braque contre la lâcheté de la population environnante, mais revers de la médaille, de l'autre côté du miroir, elle va progressivement dériver, réinventer la rencontre par le rêve, le fantasme, voire la folie latente. Alors on pense bien sûr à Peter Ibbetson, mais là où le chef-d'œuvre de Michael Curtis, qui est un vieux film fantastique des années 30, se fraye un chemin du côté du surréalisme, Sicilian Ghost Story n'arrive pas à articuler le réel et l'imaginaire. Le manque de porosité entre les deux mondes étant problématique. Alors par des détails évidents, notamment la peau très lisse de Giuseppe dans le rêve et on va dire très marquée dans la réalité, ces détails-là, le spectateur n'est jamais perdu, ayant toujours une longueur d'avance sur les personnages. La réalité morose, sale, violente est parasitée par des visions oniriques et poétiques malheureusement trop identifiables. La pesanteur du scénario est étayée par une forme agaçante. Elle baigne dans une esthétique appuyée entre un style, on va dire, publicitaire clinquant et pose affectée d'un certain cinéma d'auteur ivre de ses propres effets. Alors certains plans sont magnifiquement cadrés, mais ils sont comme balayés, noyés par les suivants. le toujours plus contamine cet objet vain et souvent prétentieux qui multiplie les motifs sophistiqués et chichiteux. Alors, passage incessant, notamment du flou artistique au plan net d'une grande profondeur de champ. La roublardise du projet a atteint son point de non-retour. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler. Lors d'une séquence particulièrement hypocrite, hein, il ne suffit pas de filmer un acte indécent en hors-champ pour éviter la complaisance. Tout est une question de point de vue et de mesure. Les cinéastes, là, très sur deux, optent pour une solution étrange, comme s'ils s'excusaient de leur pudeur ou avaient peur de paraître trop timides, hein, en plaçant la caméra en plongée, prise dans un angle improbable, insufflant à la séquence un caractère insoutenable. La surestétisation d'un plan au contour baroque annihile d'emblée l'intention de départ et apparaît même encore plus putassier dans la représentation, laissant aux spectateurs imaginer les pires horreurs. Alors, le recours à l'ellipse était peut-être la solution pour cette scène, qui est quand même une scène centrale. Ou alors, quitte à montrer l'horreur, bah autant y aller à fond. Hein. Rien n'est pire que l'entre-deux, parfois. La joliesse, d'ailleurs, du plan suivant contredit encore davantage le désir de fausse sobriété initiale. Alors, cette séquence clé, hein, révèle les limites de cinéastes très doués, mais obsédés par leur propre virtuosité. Ils surlignent chaque plan et accompagnent le moindre travelling d'une musique envahissante. C'est une sorte de ronronnement incessant. Enfin, moi, j'en avais, ça m'a mis un peu mal à la tête à la fin du film. Alors, la vanité de l'ensemble transpire jusqu'à la direction d'acteur, hein, qui s'interdit la moindre respiration de traces de légèreté et d'humour. Alors, excepté peut-être la meilleure amie de Luna, alors, dans un rôle qui est certainement inutile, mais qui apporte un peu d'air frais à l'ensemble. Qui apporte un air frais, j'allais dans cet océan de boue et de larmes qui se clôt par un épilogue ambigu, voire réversible, que chacun peut interpréter à sa guise. Alors, loin d'être raté, hein, c'est formellement parfois impressionnant. Hein, il y a beaucoup de fulgurances visuelles. Sicilian Ghost Story laisse néanmoins, je trouve, une impression désagréable, hein, renforcée par... Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai vu tous les défauts, le manque d'émotion, en fait. Mmh. C'est des fois ce qui fait qu'on ne regarde plus que l'aspect virtuose et qui peut agacer, quand il n'y a pas vraiment d'émotion, alors que c'est quand même, à la base, je pense, le but recherché. Hein.
Alors, ici, si on met à deux, hein, finalement, réalisateurs...
Mais ils sont doués, hein. Ils sont très doués, c'est ça. C'est évident qu'ils sont très doués, mais ils l'affichent trop. Mmh. C'est-à-dire qu'on le voit trop. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de gens qui risquent de sortir impressionnés par ce film en disant on a
quelle
vu
maîtrise.
Quelle maîtrise formelle. Ouais. Et d'autres personnes, je pense, beaucoup plus agacées, qui attendent peut-être plus de subtilité, même quand il y a une virtuosité filmique à l'œuvre comme ça.
En tout cas, ce film a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Et a priori, bien, il sera quand même dans de nombreuses salles françaises.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, c'est la fin de cette émission et on va parler des ressorties, les films qui reviennent sur les écrans. Fresque soporifique pour certains, chef-d'œuvre indépassable pour les autres, plus de 3 millions de spectateurs français. Eh bien, c'était déplacé dans les salles il y a 50 ans pour voir le film de Stanley Kubrick nous emmenant dans l'espace. Et voilà que 2001, l'Odyssée de l'espace ressort sur les écrans en version restaurée le 13 juin. Certains cinémas ne manqueront pas de projeter le film, qui est un projet alors colossal, une de ces belles aventures cinématographiques comme a su en mener le réalisateur américain. Un projet audacieux, comme on en voit trop rarement, qui malgré son budget volumineux, ses mois de tournage à rallonge n'avait rien d'un blockbuster. Oui, 2001, l'Odyssée de l'espace a pu ennuyer certains spectateurs qui s'attendaient à des batailles spatiales, mais Kubrick, qui adapte le roman de C. Clarke, situe son film ailleurs, avec comme toujours eh bien, un soin apporté à l'image et au son pour certaines séquences qui deviendront exemplaires, comme le silence de l'espace, le rapport de la vitesse et du temps. On parle de poème visuel, assurément un film qui se regarde et s'écoute, plus qu'il ne s'interprète et qui dit des choses très claires, hein, sur l'évolution humaine, la violence, un des thèmes récurrents quand même chez Kubrick, la place de la technologie et de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, l'occasion d'écouter Hal, alors appelé Carl dans la version française par ailleurs très bien faite. Donc Carl, l'ordinateur central du vaisseau qui s'engage vers Jupiter, un ordinateur censé être un compagnon parfait, mais qui va déjouer les attentes. On vous laisse un peu moins de 5 minutes avec cet ordinateur.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super-ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Nous devons cependant vous informer qu'une analyse préliminaire de vos calculs nous indique de façon formelle que votre super-ordinateur Carl a fait une erreur en prédisant la défaillance. Je répète, a fait une erreur en prédisant la défaillance.
J'espère, messieurs, que cet incident ne vous inquiète pas.
Écoute, Dave, je ne peux pas te définir ce que c'est, mais je sens quelque chose d'étrange.
Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine.
Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un seul super-ordinateur déconnecté. Eh bien, je ne sais pas du tout comment il prendrait ça.
Lorsque nous avons détecté sa présence, nous avons d'abord pensé que c'était une roche magnétique qui affleurait à la surface.
Il y a 3 semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter.
L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par 5 hommes et un exemplaire de la dernière génération de superordinateur CARL 500. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Carl. Bonjour Carl, comment ça va à bord ?
Bonjour Monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper.
L'histoire du cerveau électronique qui se révolte. Alors ça, c'est complètement stupide.
Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal.
2001, c'est un film sur l'intelligence, sur le développement de l'intelligence et sur le développement de la curiosité.
J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien.
C'est un film extrêmement complexe qui brasse des tas de problèmes et je trouve étonnant qu'on puisse passer à côté de ce film.
J'ai peur.
C'est un film qui, Kubrick le dit lui-même, qui n'est pas expliqué, qui délivre un message non-verbal, ce film qui se regarde.
J'ai peur, Dave.
C'est la première fois qu'on voit des tas de choses et qu'on développe des tas de problèmes que la science-fiction écrite a développés mais qui n'étaient jamais venus au cinéma.
Mon cerveau se vide.
On ne peut pas croire à ce dieu transformé en parallélépipède noir.
On parlait d'un objet mis à jour sur le sol lunaire. Au début, je ne faisais aucun cas de ces racontars, mais j'ai de plus en plus de peine à les ignorer lorsque je les rapproche d'autres faits d'apparence insignifiants.
Cet objet, c'est du paganisme, c'est de la basse superstition, etc.
Minutieuse que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre. J'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
L'exposé qui va suivre a été enregistré avant votre départ de la Terre. Pour des raisons de sécurité de la plus haute importance, le contenu de cet exposé n'a été communiqué jusqu'ici qu'au superordinateur Carl à bord de votre vaisseau spatial.
Montage spécial Cinérama pour fêter la ressortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick. Et un autre film sort, c'est celui des enfants.
Alors, mon voisin Totoro ressort pour son 30e anniversaire dans une copie neuve restaurée 4K. L'occasion rêvée de se replonger dans un des plus beaux films d'animation de tous les temps. Alors, initialement destiné aux jeunes, voire très jeune public, ce 4e long métrage de Miyazaki est certainement le plus contemplatif de l'auteur, celui où l'histoire n'est pas construite selon un schéma classique avec une progression narrative, une quête à poursuivre. Il s'agit essentiellement d'une tranche de vie fantasmagorique et poétique de 2 fillettes de 4 et 10 ans, dont la mère, atteinte d'une maladie incurable, est à l'hôpital. Elles déménagent à la campagne avec leur père et vont donc rencontrer le fameux Totoro, sorte de créature imposante et affectueuse qui protège la forêt. Alors, au service d'une animation fluide et d'un dessin tout mignon, mon voisin Totoro sauve des digressions particulièrement savoureuses, comme l'apparition du Chabus ou ce passage étonnant, impensable aujourd'hui, où le père prend le bain avec ses 2 filles en toute innocence. Et plus surprenant encore, le dessin animé refuse le happy end de circonstance pour une production destinée aux enfants.
Et voilà. Eh bien, ce sera sur les écrans pour tous les adultes et les enfants qui ne l'ont toujours pas vu ou ceux qui ont envie de le revoir.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va falloir contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Bah on a encore entendu Al dans cette fin d'émission. Manu, la semaine prochaine, tu auras vu beaucoup de choses.
Hérédity, certainement, film fantastique. Et puis, À genoux les garçons, d'Antoine Desrosières.
Et puis moi, bien, je préparerai un nouveau blind test. Ce sera Cinérama.